VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Des milliers de militants d'opposition sud-africains se sont réunis aujourd'hui à Johannesburg, près de la cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la possibilité d'organiser un vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma au Parlement. Plusieurs partis d'opposition ont déposé une motion de défiance contre le chef de l'État après le remaniement à la fin du mois de mars du gouvernement, marqué par le limogeage très controversé de son respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan. Les adversaires de M. Zuma ont demandé le secret du vote au Parlement, persuadés de pouvoir retourner une partie des députés du Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir, qui détient la majorité absolue. Face au refus de la présidente de la Chambre, Baleka Mbete, qui a estimé que la Constitution n'autorisait pas le vote à bulletin secret, l'opposition a saisi la plus haute juridiction du pays qui devait rendre un jugement en fin de journée. En Côte d'Ivoire, les soldats mutins qui réclament des primes non payées ont continué leur mouvement par des tirs nourris aujourd'hui. Aussi bien à Boaké qu'à Abidjan, la situation est si tendue que la Banque africaine de développement a demandé à ses employés de rester chez eux et de ne pas bouger. La situation sécuritaire n'étant pas claire pour le moment dans la capitale économique. Plusieurs entreprises ont aussi demandé à leur personnel de rester à la maison, selon l'AFP. Les mutins réclament depuis vendredi les reliquats des primes promises par le gouvernement. Après les mutineries de janvier qui ont ébranlé le pays à l'époque, ils avaient réclamé 12 millions de francs CFA de primes pour chacun d'eux. Les mutins ont obtenu le versement dès janvier de 5 millions. Ils exigent maintenant les 7 millions restants payables par tranche à partir de ce mois de mai en principe. Georges Ibrahim Tunkara fait le point sur tout cela.
Au sein de la population, les avis sont partagés sur ces mutineries.
Si elle est tire, c'est le maçon qui envoie tout cela. Parce que le pouvoir en place ment. Depuis, dès le départ, ils ont menti. Le maçon, là, ça continue. On nous a fait croire que oui, ils se sont attendus, ils se sont retirés. Mais d'où vient les tirs?
Mon impression, c'est que le président de la République trouve intérêt d'entente avec nos frères qui ont pris les armes. Pour que la situation se calme et que la vie continue et que les choses avancent et que les Ivoiriens soient encore en paix.
La classe politique a elle aussi réagi à ces nouveaux bruits des bottes. Pascal Afingessan, président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, demande la mise en place d'un gouvernement d'union nationale.
Les événements actuels ne viennent confirmer la nécessité d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement-là a montré ses limites. Il a échoué à reformer l'armée et à assurer la sécurité des Ivoiriens. Il a échoué sur le plan économique, il a échoué sur le plan social. Il ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire.
Joël Nguessan, porte-parole du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir, condamne cette nouvelle mutinerie.
Trop, c'est trop. Et je peux vous dire que les Ivoiriens en ont vraiment marre. Nous encourageons le président de la République à être ferme dans sa position, à ne céder à aucun chantage.
Quant au chef d'état-major de l'armée, il a brandi la menace de sanctions disciplinaires sévères à l'encontre des mutins. Des mutins qui ont fait fi de cette mise en garde en poursuivant leur mouvement de revendication à travers plusieurs villes du pays. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Mali, trois attaques, une vingtaine de morts du côté de l'armée malienne et de ses alliés. C'est le bilan des deux semaines d'attaques attribuées à la nouvelle alliance que dirige Yad Agali. Les militaires maliens, un total de 22 morts à Goma, Raous, Napala et Amoustrat sont donc les plus grandes cibles de ces attaques, nous dit à Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
C'est une unification de mouvements terroristes autour de Yad Agali qui a permis de voir la mise en place de cette alliance composée de Amadou Koufa du Mali, Ibrahim Malam Diko du Burkina Faso et d'autres terroristes. Leurs cibles, les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sans oublier leurs alliés. Dr Lamine Sandi Aïdara, sociologue.
C'est des gens qui ont compris que le terrain a changé et qu'il faille aussi changer les modes d'opération. Du coup, l'armée malienne doit s'adapter en fonction de leur méthode. Cela est dû au fait qu'il y a Dacombi qui n'a aucune porte de sortie et qu'il était obligé, il sera obligé effectivement de trouver un accord de tous les mouvements pour pouvoir faire face, pas seulement à l'armée malienne, face à la communauté internationale, parce que c'est ça. Et de la manière dont ils ont occupé le Nord, qu'est-ce qui ne prouve pas qu'ils puissent rebondir encore avec beaucoup de stratégies pour pouvoir nous empêcher de vivre tranquille.
Cette nouvelle alliance de groupes terroristes fait peur aux Maliens. Certains pensent qu'il faut négocier avec eux, à l'image de Modibo Fofana, journaliste.
Cette alliance ne m'a pas surpris. Je pense qu'avec cette alliance encore, qui va s'étendre même à l'extérieur, ça va nous nuire davantage parce qu'associer Yad au processus de dialogue est devenu logique. En réalité, les vrais maîtres sur le terrain, c'est Yad. On a cru à la CIMA et aux autres groupes armés en signant un accord avec eux, mais nous nous sommes rendus compte que la situation encore s'est empirée. Et la situation du terrain nous impose à aller avec Yad.
Négocier avec Yad Agali n'est pas de l'avis de Bamako, qui est préoccupé par la mise en place de la force commune du G5 Sahel pour venir à bout des terroristes. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
Nous avançons très sérieusement et assez rapidement pour la concrétisation de ce projet. Et vous savez que le 13 avril dernier, l'Union africaine, à travers le Conseil des pays de sécurité, a donné un mandat à autoriser le déploiement de cette force. Nous sommes en contact maintenant avec les Nations Unies pour avoir un mandat pour pouvoir le réaliser. Le gap que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements de ces unités terroristes entre nos pays. Et je crois que ça constitue une menace. Et nous avons aussi beaucoup de zones dans nos États qui échappent, notamment dans le nord du Mali, à l'autorité de l'État. Et que ces deux facteurs combinés constituent aujourd'hui des sources d'insécurité pour nos pays.
Le docteur sociologue Lamine Sandy Aïdara préconise la formation des militaires maliens. Selon lui, tôt ou tard, les forces étrangères vont quitter le Mali.
Franchement, moi, je me pose la question, qu'est-ce que ces forces-là font au nord? C'est vrai que ça, on entend qu'ils ont attrapé tel djihadiste à tel endroit. Moi, je dis, ça ne suffit pas. Je suis sceptique là du sujet des appréhensions. Ça ne sert à rien. Il faut encore qu'on évolue en fonction du terrain. C'est ça, une guerre. Hein. On ne va pas se laisser surprendre. Et je crois que le Mali doit pouvoir s'organiser. Il faut faire des recrutements. Il faut former en fonction de cette guerre aux accents asymétriques.
Pendant les 4 premiers mois de 2017, on a enregistré un record en matière de sécurité. Une vingtaine d'attaques, près de 200 victimes sur le territoire national depuis le 1er janvier 2017. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a mis en place une commission de 15 membres chargée de réécrire la constitution. Le nouveau projet vise notamment à abroger le verrou sur la limite des mandats présidentiels tel que recommandé par le dialogue inter-burundais. L'opposition en exil de son côté parle d'une nouvelle violation de la constitution en vigueur. Le président du Frodebu, Frédéric Banvugir Nimuvira, met l'accent sur l'article 299.
Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie, à l'intégrité du territoire. Je déduis que la révision de la Constitution vient justement s'attaquer au contenu de l'article 299, pour autant qu'il y a plus de 500 000 Burundais qui sont à l'extérieur. Deux, il y a un conflit autour des mandats et du respect de la Constitution. De faire résurgence des conflits ethniques, cette révision viendrait conforter Nkurunziza dans sa politique de diviser le peuple burundais. Donc, entamer la cohésion du peuple burundais. Trois, cette procédure ne peut pas intervenir pour autant qu'elle viole la démocratie. Il va être poursuivi devant la Haute Cour de justice et aura lieu un jour pour avoir trahi le peuple burundais.
Frédéric Banvungin Yumvira, adjoint à Bruxelles par Eric Manirakiza. Les Nations Unies ont annoncé qu'une contribution de 1,4 milliard de dollars serait nécessaire cette année pour aider 1,8 million de réfugiés qui ont fui la guerre et la famine au Soudan du Sud. Le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, et le Programme alimentaire mondial, le PAM, ont présenté à Genève un plan d'action avec un budget près de deux fois supérieur aux 781 millions de dollars qu'ils avaient réclamé auparavant pour faire face à cette crise. L'ONU ouvre demain mardi à Genève un nouveau cycle de négociations pour mettre fin à la guerre en Syrie, déjà éclipsée par des pourparlers parallèles par la Russie, l'Iran et la Turquie, ainsi que par les défaites rebelles à Damas. L'ONU cherche aujourd'hui à rester par tous les moyens dans la course après l'important accord signé à Astana le 4 mai et qui prévoit de créer des zones de désescalade en Syrie pour limiter les fusions de sang. Et le président américain Donald Trump et son homologue Emmanuel Macron auront un long déjeuner le 25 mai. Ce sera à Bruxelles pour comparer leurs opinions, a déclaré dimanche soir un haut responsable de l'administration américaine à l'AFP. Selon cette source, la Maison-Blanche. L'idée selon laquelle M. Trump soutenait Mme Le Pen était exagérée et uniquement basée sur un tweet au sujet des frontières et sur le passage de l'ancienne présidente du Front National à la Trump Tower. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.